Merci. Alors, quelques-uns d'entre vous sont venus et m'ont demandé quand est-ce que tu vas vraiment parler d'Israël, ce qui se passe en Israël, les enjeux prophétiques, le plan de Dieu pour Israël. Et ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur a ouvert des portes pour moi de parler dans le monde entier. Le mois prochain, je serai en Chine, pour parler justement sur ce mystère d'Israël. Et je ne voulais pas vous quitter sans vous parler des choses importantes. Alors bien sûr, Israël, on peut pas en parler en 1 heure, ni en 2 heures. Israël, c'est le troisième mot le plus employé dans la Bible, hein. Ça prend tout un temps pour étudier et apprendre Israël. Vous mettez votre doigt entre la Genèse au chapitre 12 jusqu'au livre de l'Apocalypse, et puis vous avez Israël, 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 hein, des milliers de temps, ça parle d'Israël. Et Israël est pourtant quelque chose qui a été négligé dans l'Église. Israël, c'est un mystère qui a besoin de révélation. Vous savez, dans l'Église, on nous a volé des choses très très importantes. On nous a volé, dans toute l'histoire de l'Église, des choses ont été enfouies, cachées, et des trésors qui ont été redécouverts. On se souvient de le salut par la foi, c'est la réforme, hein. Il y a aussi le don du Saint-Esprit, au début du 21e, du 20e siècle, par les mouvements pentecôtistes. Il y a des choses qui sont revenues à la surface, qui ont été repris, retrouvés, redécouverts. Et Israël, on peut dire que c'est vraiment un mystère qui a été caché, qui a été enfoui, peut-être par besoin, peut-être aussi par ignorance, mais aussi on sait que nous avons un ennemi qui est un menteur et le père du mensonge. Et donc c'est très important pour nous de comprendre ce que c'est que Israël. Alors d'abord, je vous montre la photo d'une de mes filles qui s'est mariée l'année passée. Ils sont sous la choupa. Ce qu'on appelle la choupa, c'est le dé, c'est-à-dire c'est un voile de prière qui est au-dessus, c'est la bannière du Seigneur qui est amour pour nous. Et donc avec son mari, ils sont en train de s'embrasser là, et juste avant de s'embrasser, eh bien ils ont échangé la coupe, ils ont échangé les alliances, ils se sont dit Ken, Ken ça veut dire oui en hébreu. Et ensuite, eh bien l'époux prend un verre, il prend un verre. Et il casse ce verre. Et en cassant ce verre, il déclare ces versets de la parole de Dieu, psaume 137, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie ou se dessèche. » Il y a différentes traductions, hein. « Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens pas de toi et je ne mets Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. » Alors on sait que le mariage est un des jours les plus joyeux dans la vie d'une personne. Et quand même, dans ce jour joyeux, eh bien, il y a cette déclaration, si je t'oublie, Jérusalem, eh bien, que ma droite se dessèche ou s'affaiblit et que ma langue s'attache à mon palais. Alors, je crois que, bien sûr, cette parole parle ici de l'identification avec Jérusalem, avec la capitale du pays d'Israël, un peuple, l'identification avec un peuple, mais aussi c'est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes, et c'est aussi, ça parle à chacun des chrétiens, des personnes qui sont disciples de Jésus, ici, pour nous faire souvenir que Jérusalem, en fait, a une place importante aux yeux de Dieu. Et si nous aimons Dieu de tout notre cœur, toutes nos forces, et nous voulons aimer ce qu'il aime, et bien sûr, nous voulons détester ce qu'il déteste. Jérusalem a une place spéciale au cœur de Dieu. Et deux choses vont se passer si on oublie Jérusalem, parce que Jérusalem, ça parle des racines de notre foi. Et c'est ce que je dis souvent, que nous sommes dans une génération où nous avons besoin de nous tourner vers nos racines. Je me souviens, quelqu'un avait rapporté un très beau bouquet de fleurs dans un vase de toutes les couleurs. Et il avait posé des questions. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces fleurs? Alors on a dit, oh, elles sont belles, elles sont rouges, elles sont blanches, elles sont jaunes. Et tout d'un coup, il y a une personne qui s'est levée. Elles sont mortes. Elles étaient belles, mais elles étaient mortes. Elles avaient été coupées de leurs racines. Dans 2 jours, on pouvait déjà les jeter. Et souvent, si nous oublions Jérusalem, si nous oublions les racines juives de notre foi, si nous oublions que, en fait, notre foi est la foi la plus ancienne qu'il y a dans le monde, puisque notre Dieu est le Dieu de la création. Et je crois que le livre de la Genèse est le livre le plus important à étudier maintenant, après les évangiles, où tous les livres sont importants à étudier, mais je crois que le livre de la Genèse est très important dans notre rapport avec les musulmans, par exemple, avec les bouddhistes, avec la façon de concevoir les choses, la famille. Donc c'est très important d'étudier le livre de la Genèse, et je vous encourage, parce que notre foi ne commence pas à Matthieu chapitre 2, mais il commence à la Genèse au chapitre 1. La Genèse au chapitre 1. Et donc ici, si nous oublions les racines de notre foi, il faut aller plus profondément. Vous savez, quand il y a de la sécheresse, eh bien, il faut creuser plus profondément, et on a besoin de creuser plus profondément. Notre foi est la plus ancienne foi du monde. Et si nous oublions Jérusalem, si nous oublions ces racines qui sont dans l'Ancien Testament, vous savez, comme Paul, il a dit avant d'avoir écrit le Nouveau Testament, la moitié du Nouveau Testament, il dit « Toutes les Écritures sont inspirées par le Seigneur et sont utiles pour nous enseigner, pour nous exhorter, pour nous corriger et pour nous amener à cette maturité spirituelle. » Et donc, on parle de l'enseignement dans l'Ancien Testament. Est-ce que je voulais dire, vous, des dirigeants d'église, je crois que c'est très important d'enseigner dans l'Ancien Testament. C'est la parole de Dieu. Souvenez-vous de Jean Calvin, souvenez-vous des gens qui prêchaient de l'Ancien Testament. On a besoin de retourner à ça. Pourquoi ? Parce que les chrétiens ont soif, ils ont faim. Ils sont affamés. Et ils sont intéressés à Israël. Et s'ils n'ont pas d'enseignement dans les églises à propos d'Israël, eh bien, ils vont se tourner vers des rabbins. Ils vont se tourner vers des personnes qui ont une éducation rabbinique, peut-être même anti-chrétienne, anti-Christ, et ils vont être influencés par des fausses doctrines. Et c'est ce que je vois de plus en plus en Israël, où des gens qui veulent étudier la parole de Dieu et vont dans des yeshivas et, eh bien, à un certain moment, abandonnent le Seigneur. Et ils se retrouvent juifs, se convertissent au judaïsme parce qu'il y a une séduction. C'est la même séduction dans le livre de Galates, si vous vous souvenez bien, où il y avait des personnes qui sont venues au Seigneur par la grâce et puis ils se sont tournés vers les commandements du judaïsme. Et Paul doit les reprendre. Vous avez commencé par la grâce et maintenant, eh bien, vous vous mettez sous la loi encore. Les brebis ont faim. Les brebis ont faim. Il faut les nourrir. Il faut les nourrir avec toute la parole de Dieu, avec l'Ancien Testament aussi. Donc je veux vous encourager, puiser dans les racines. Il y a de l'eau, il y a des sources dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est puissante et active. Deux choses vont se passer si on coupe ses racines. La droite va se dessécher. La droite, Jésus est aussi à la droite du Père. C'est l'autorité, notre autorité. Toute puissance et autorité nous sont données. Le Seigneur a dit. Et je ne parle pas de l'autorité de l'Église dans l'Église. Je parle de l'autorité de l'Église dans le monde. Si nous oublions nos racines judéo-chrétiennes très enfouies dans le temps, eh bien, nous deviendrons un ghetto. Nous deviendrons une secte. Nous serons à part, isolés, au lieu d'avoir une influence. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'était pas seulement pour donner de la saveur. Le sel, c'était le seul moyen de préserver les aliments, de pourrir. On salait les aliments, les poissons, les viandes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes ceux qui vont empêcher la putréfaction de notre société. Et le sel doit être dehors. Allez et faites. C'est pas rester et attendre que. Allez et faites, il faut sortir dehors. J'étais très encouragé de voir 1 million de personnes dans les rues qui se tenaient pour la moralité de la famille, la cellule de la société. Mais j'étais attristé de voir ces 9 millions qui ne sont pas sortis. S'il y avait 10 millions, ça aurait peut-être changé la face des choses. Il y avait 1 million, merci Seigneur pour ces 1 million. J'attendais les 9 millions, j'attendais. J'attendais ces 9 millions et j'espère que vous serez la prochaine fois. Vous savez, j'étais dans une réunion, j'ai parlé d'Israël et j'ai un couple qui m'a dit, écoutez, on est avec vous dans la première session, mais la deuxième session, on peut pas être là. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est plus important d'Israël? Il dit, on est dans les rues en train de manifester. Je les ai embrassés, j'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Allez, ne baissez pas les bras. It's not over until it is over, pour ceux qui comprennent l'anglais. Ne baissez pas les bras, on n'a pas fini. On n'a pas fini, nous sommes dans le combat. Et nous sommes le dos au mur, et quand on est le dos au mur, eh bien c'est là où le Seigneur nous surprend. Le Seigneur va faire quelque chose d'immense, d'énorme en France, parce que vous avez aussi des racines. La racine passe par la réconciliation. On a parlé des réconciliations entre juifs et arabes. Mais moi, je vais vous parler de votre problème de réconciliation en France. 400 ans entre protestants et catholiques. Et on n'est pas encore arrivé à se mettre ensemble. Et le Seigneur attend. Il attend parce que ça, c'est la réconciliation de la France. 9 guerres de religion. Révocation de l'édit de Nantes qui a appauvri complètement cette France, asséchée de toutes ses richesses. 1685. 100 ans plus tard, c'était la Révolution française. On a besoin de réconciliation entre catholiques et protestants. Et je sais, les protestants sont anticatholiques. Beaucoup, à grande partie. C'est vrai ? Plus ou moins ? Plus ou moins ? Plus bon. Ça change. Alors, j'ai parlé de la réconciliation chez moi au Moyen-Orient. Maintenant, je veux vous encourager dans votre réconciliation. Invitez votre curé, votre abbé, priez pour lui. Essayez de construire des ponts. On construit des ponts et pas des murs. Amen. Alors, l'autorité de l'Église dans le monde. Si on oublie les racines de Jérusalem, la deuxième chose, la langue se colle au palais. Énormément de chrétiens ne savent plus annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à l'évangéliste professionnel ou le pasteur. Venez, il y a une campagne d'évangélisation et il y a quelqu'un, un homme de Dieu qui va raconter la bonne nouvelle, Jean 3,16, que n'importe quel jeune... Non, je dis ça comme ça, mais sans me moquer, mais n'importe quelle personne qui a un an dans le Seigneur peut apporter ce même message. Parce que le message est tellement simple. Jésus est mort, enterré, ressuscité, et il vit aujourd'hui. Et il est mort pour nos péchés. Cette parole de l'Évangile est accessible pour tous. Et nous sommes tous des témoins. Mais souvent, nous ne savons pas comment approcher les personnes, comment créer des ponts. Et pour créer des ponts, il faut descendre au dénominateur le plus commun. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes créés par le Créateur et nous lui appartenons. Et le livre de la Genèse est un livre clé. Je vous encourage vraiment à vous tourner vers ce livre. Alors, c'est quoi Israël ? Israël, je vous avais dit, c'est une étroite bande de terre entre trois continents. Si vous pouvez vous souvenir d'Israël, Israël c'est une route pour un message. Une route pour un message. Une route parce que se trouve à la frontière de ces trois continents qu'est l'Afrique. Il y avait le royaume de Mitzrayim, c'est-à-dire l'Égypte. Il y avait la Mésopotamie à l'est. Et en haut, il y avait le royaume des Hittites. Tout a commencé avec un homme qui s'appelait Avram, qui était père élevé, qui est devenu père de beaucoup de nations. Il faut d'abord être, pour être un père de beaucoup de nations, il faut d'abord être père dans sa propre famille. Et Dieu l'a appelé. Il était où ? Il était à l'est de Éden. Il était ce qu'on appelle maintenant l'Irak du Sud. Parce que le jardin d'Éden, c'est quoi ? C'est un... Il y avait un fleuve avec quatre bras. Il y avait l'Euphrate et le Tigre qui se trouvent ici à l'est. Il y avait le Pichon et le Guion qui sont le Nil blanc et le Nil bleu. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a eu des changements archéologiques, géographiques qui se sont passés puisque les continents n'étaient pas encore séparés. Donc imaginez-vous que l'Égypte était rajoutée, rattachée à l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite au Golfe Persique. Tous ensemble, et la rivière, un des bras du Nil, en fait, au lieu de passer du nord au sud, passait en fait de l'ouest à l'est. Et en regardant la carte, je n'ai pas cette carte-là, mais je pourrais vous la montrer, eh bien, nous pouvons voir que le pays de Canaan, le pays de Canaan, qui est la terre d'Israël que Dieu a donnée à Abraham, se trouvait juste au centre du jardin d'Éden. Et dans la tradition juive, le mont Morija, le mont là où Abraham a sacrifié son fils Isaac, a voulu, Dieu lui a demandé, là où Dieu se révèle comme l'Éternel qui pourvoit, là où le premier temple a été construit, une des collines de Jérusalem, eh bien, selon la tradition juive, c'était ce qu'on appelle la Even Hashtia, c'est-à-dire la pierre de création, là où Dieu aurait créé Adam et Ève, où il y aurait l'arbre de la vie, et où, en fait, le péché serait rentré dans le monde. Par un homme, le péché est entré dans le monde, par un autre homme, le second Adam, eh bien, l'expiation du péché, le pardon du péché, eh bien, est arrivé. Et donc, Jérusalem ne commence pas avec la venue de notre Seigneur, mais Jérusalem commence déjà au livre de la Genèse. Et ce qui nous fait comprendre vraiment pourquoi David, le roi David, qui avait sa capitale à Hébron, qui était à la frontière des intersections au centre du pays, c'était sur la route des patriarches, une route très très prise, tout d'un coup décide d'aller assiéger la forteresse des Jébusites, qui se trouve à 900 mètres d'altitude, qui s'appelait la forteresse de Sion, c'est la première fois qu'on utilise le mot Sion, et il décide, avec son armée, d'assiéger cette petite forteresse, et il en fait sa capitale. Alors on sait que David est un prophète, il avait reçu de Dieu quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas reçu. Un homme qui avait le cœur après Dieu, il aimait Dieu de tout son cœur. Un homme de faiblesse, un homme comme vous et moi, mais Dieu lui avait donné cette vision. Construire sa maison, la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et c'était son rêve. Son rêve, c'était construire une maison pour le Seigneur. C'était son rêve. Le Seigneur lui a dit, tu es un homme de sang. Ce ne sera pas toi, ce sera ton fils, Shlomo, qui veut dire ma paix, sa paix. Et Shlomo a construit, mais David lui a dit, oui, mais en attendant, je peux organiser. Alors il ramène, il a un ami, c'est le roi de Tyr, le cèdre du Liban, il les fait venir de Tyr jusqu'à Jaffa. Jaffa, il les fait monter jusqu'à Jérusalem et il prépare la maison de l'Éternel. Sur cette maison de l'Éternel, eh bien, il y aura des sacrifices. Et vous vous souvenez la prière de Salomon ? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me cherche, et chaque personne qui priera à cet endroit, je l'exaucerai, qu'il soit d'ici ou qu'il soit des autres nations qui viendraient. Et le Seigneur a envoyé le feu et il a béni les sacrifices d'une façon surnaturelle. Donc cette maison de l'Éternel est une maison voulue par le Seigneur. Il avait mis ça sur le cœur de David. Pourquoi ? Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Alors on a parlé du royaume de Dieu, on est tous ambassadeurs du royaume de Dieu, on en a parlé. Nous sommes tous appelés à être des ouvriers de réconciliation, mais dans tous les royaumes, dans tous les pays, il y a une capitale. Et je veux vous annoncer que votre capitale, la capitale du royaume de Dieu ici sur terre, c'est Jérusalem. Alors Jérusalem, ça veut dire, en hébreu, Yerushalayim, ça veut dire la ville de la paix. Mais en fait, quand il y a le haïm à la fin, c'est deux. Les villes de la paix, les deux villes de la paix. Il y a la ville physique et la ville céleste, spirituelle. Et en fait, quand vous regardez un drapeau, quand vous regardez le drapeau du Magen David, de l'étoile de David, c'est deux triangles. C'est un triangle qui est avec la base en bas et qui monte, avec une pointe, et l'autre triangle qui descend. Et en fait, ce symbole de la Magen David, on a parlé beaucoup du Magen David, hein, le bouclier de David, regardez, voilà, merci. Vous voyez, ce sont deux triangles qui se rencontrent. Alors, l'homme est tripartite. Hein? On a un corps, on a un âme, on a un esprit, et le Seigneur aussi est un, mais il est trois. Il est amour, en lui il y a une relation, il ne nous a pas créés par besoin, comme les autres religions monophysites. Hein? Il nous a créés pour partager son amour, et donc c'est Dieu et l'homme qui se rencontrent. Le point de rencontre, c'est Jérusalem. Voilà. Jérusalem, c'est votre capitale, la capitale du royaume de Dieu, puisque Jésus, lui, a donné à ses disciples en leur disant, restez à Jérusalem, Vous savez, on a fêté l'ascension. L'ascension, c'est 40 jours après sa crucifixion. Pendant 40 jours, il a été se révéler. Il a été se révéler à des personnes. Il a été se révéler à son frère Jacques qui ne croyait pas en lui. Vous vous souvenez, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez toute cette liste. Et plus de 500 personnes, il s'est révélé. Et ensuite, il est monté. Et il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. La promesse du Père. Et pendant 10 jours, 120 personnes étaient ensemble. Je suis sûr qu'il y en avait qui voulaient faire des courses, qui voulaient, mais ils avaient peur parce que on savait pas à quelle heure le Saint-Esprit allait venir. Ils sont restés 120 pendant 10 jours ensemble. Je crois que si vous restiez 10 jours ensemble, c'était super, hein. 2 jours, 3 jours, c'est super, mais moi je veux dire 10 jours, le feu va descendre. Tous ensemble. Le Saint-Esprit est venu. Il dit, attendez la promesse du Père, car vous serez mes témoins. Martyrs, hein, en grec. Martyros. Il y a un prix à payer pour être des témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, à Bouvines. Et plus. Si vous creusez un trou à Jérusalem, ou assez grand, pour arriver de l'autre côté de la terre, où les extrémités de la terre de Jérusalem, c'est une ville qui s'appelle Christ Church, l'église du Christ en Nouvelle-Zélande. De l'autre côté de Jérusalem, vous êtes à l'église du Christ en Nouvelle-Zélande, et il y a 1 an et demi, il y avait un très grand tremblement de terre qui a effondré, écroulé, toute... Tu étais, toi tu y étais, c'est ça? C'est toi qui étais, voilà, pendant le tremblement de terre. Elle est témoin, elle est martyr là, elle est témoin, voilà. Toutes les églises ont été effondrées, même la grande église anglicane, historique, etc. Et maintenant, les plaques tectoniques ne se sont pas encore remises en place. En fait, il s'est passé quelque chose, quand les plaques tectoniques ont bougé, elles sont encore en mouvement. Et pour moi, on sait que les tremblements de terre, c'est les douleurs de l'enfantement. Chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, on sait que c'est le commencement de la fin. Jésus revient. Et pour annoncer ce retour, il y aura des tremblements de terre, des guerres, des rumeurs de guerre. On sait que c'est le début. Donc chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, on dit « Seigneur, merci, tu reviens, tu es en train d'ébranler ici. » Mais les fondations, les extrémités de la terre sont en mouvement. Et notre belle-fille vient de Nouvelle-Zélande. Il y a énormément de chrétiens là-bas aussi. L'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre et Dieu est en train de secouer les fondations de cette terre. Pourquoi ? Parce qu'il revient. De la même façon, là où il est monté, il dit à ses disciples, il reviendra. Il est monté du mont des Oliviers, il reviendra sur le mont des Oliviers. C'est le livre de Zacharie le prophète que je vous encourage à lire et étudier. Zacharie, c'est d'actualité, vraiment. Le jugement des nations à Jérusalem, la venue du Seigneur, etc. Zacharie, c'est incontournable. Genèse, Zacharie. Voilà. Et le Seigneur, eh bien, il revient. Il est passé par les extrémités de la terre et il revient. Il revient à Jérusalem. Les premiers, les Juifs, à recevoir l'Évangile, seront les derniers. Et les avant-derniers, c'est qui ? Eh bien, ce sont les autres enfants d'Abraham. Puisque tout se termine dans la famille. Tout a commencé par la famille et se termine par la famille. Les avant-derniers, c'est tous les Arabes. Et maintenant, je veux vous annoncer que l'évangile, Jésus, il est déjà dans les pays arabes. Et il est en train de toucher l'islam. L'islam va s'effondrer. On ne sait pas si c'est avant Gog et Magog ou pendant Gog et Magog ou après Gog et Magog. On sait, dans Ézéchiel, il y a une coalition de nations qui vont se tenir contre Israël. Israël va vaincre parce que le Seigneur va intervenir. Il va avoir une guerre surnaturelle. Tout simplement pour vous dire que votre histoire, votre église, votre nation fait partie d'un plan beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Et que ce plan, en fait, le centre stratégique, c'est le Moyen-Orient, c'est Jérusalem, c'est Israël. C'est pour ça que quand vous regardez les informations télévisées, eh bien, je vais vous prophétiser ce que vous allez voir ce soir ou demain quand vous rentrez. Vous allez voir des faits divers, vous allez voir du sport, vous vous allez voir de la météo et vous allez entendre quelque chose sur Israël. Alors Israël, c'est une toute petite bande de terre, comme je vous l'ai dit. Regardez, on va voir. Regardez la taille d'Israël. Entre Reims et l'Ardèche, c'est tout petit. 21 000 km² plus les territoires disputés, allez, encore 4 000 km², 25 000 km². 7 millions d'habitants, on est presque 8 millions parce que ça monte à chaque fois. En 1948, il y avait 600 000 habitants, maintenant on est presque 8 millions. La moitié des juifs du monde entier sont déjà là, sont déjà arrivés. Il manque encore l'autre moitié qui doit venir. Pourquoi tous les jours on entend parler d'Israël alors qu'il y a des guerres civiles en Afrique? République centrafricaine, on n'en parle jamais presque. Au Congo, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de toutes ces nations où il y a énormément, beaucoup plus de personnes qui perdent leur vie, alors qu'on parle toujours d'Israël? Parce qu'Israël a un enjeu spirituel, stratégique. Et moi, souvent, je me dis, Israël est toujours placé dans les actualités pour que les chrétiens se souviennent. Si je t'oublie Jérusalem, il y a un enjeu stratégique. Le Seigneur revient à Jérusalem et Satan, l'ennemi de notre âme, veut empêcher à tout prix Jésus de revenir à Jérusalem. Il va tout faire pour l'empêcher de revenir à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est le menteur et le père du mensonge. Donc il va créer des fausses religions. C'est un meurtrier. Donc il va apporter le terrorisme, le meurtre. C'est un voleur, donc il va voler l'héritage des personnes dans leur culture, dans leur foi, et il va empêcher Jésus de revenir à Jérusalem. C'est un peu fou quand même, hein. Mais l'ennemi, on sait, il ne peut rien créer par lui-même, il copie, c'est un copieur. Donc qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va apporter du mensonge, c'est-à-dire mettre quelque chose de faux dans des vérités qui sont vraies. Et ce qu'on voit avec Israël, c'est qu'il y a un enjeu ici, et cet enjeu, je vous le présente ici, c'est dans Romains, au chapitre 11, verset 25. « Je ne veux pas, frère, c'est Paul qui écrit à l'église de Rome, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Vous voyez l'évangile qui est sorti? Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, nous sommes dans cette génération où toutes les nations ont eu la possibilité d'entendre l'évangile, et maintenant, à travers l'internet, Google, les chaînes satellites chrétiennes, moi j'ai rencontré des gens qui habitent au Koweït, ils ont les paraboles, ils entendent l'évangile au Koweït. Il y a des chrétiens en Arabie Saoudite qui sont venus en me disant on est l'église souterraine, mais on se réunit au sixième étage. Et ils ont les paraboles et la possibilité pour l'évangile de rentrer dans les maisons. Ça, c'est quelque chose d'inouï. C'est avec les moyens techniques. Souvent, on parle des comment Satan utilise l'internet et toutes ces choses-là. C'est vrai. Il y a énormément. L'ennemi est toujours celui qui nous vole et qui nous pille, mais il y a la possibilité d'entendre l'évangile aussi à travers tous les moyens modernes et techniques. Et quand le temps des païens sera arrivé à sa fin, quand le temps des nations sera arrivé à sa fin, eh bien, il est parlé de ce mystère. Il y a un endurcissement, il y a une incrédulité, il y a un voile qui posait un voile d'incrédulité. Et ce voile d'incrédulité, on peut le lire, en fait, il est très détaillé dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14, si vous pouvez voir. C'est parlé du peuple d'Israël. Ils se sont endurcis dans leur pensée, incrédulité, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de la Tanar, l'Ancien Testament, le même voile demeure, et il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur, mais quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, là est la liberté. Alors, ce dernier verset, on l'a utilisé à toutes les sauces. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Dans toutes les conférences, j'ai entendu, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. C'est quoi le contexte? Le contexte, eh bien, c'est quand l'esprit de Dieu touche un juif, ce voile d'incrédulité va tomber et il va rentrer dans cette révélation que Jésus est son sauveur et son messie. Alors, c'est très intéressant pour nous parce que on a un signe de quand ça va se passer. Ça va se passer, eh bien, quand la totalité des païens sont entrés. Alors, si moi je vous disais, quand je suis venu faire mon alia, venu en Israël, il y avait en Israël 200, entre 200 et 250 juifs messianiques, des juifs qui croyaient en Jésus. 200. On pouvait tous les faire, tous les juifs croyants, on pouvait les faire entrer dans cette salle. Aujourd'hui, après 30 ans, il y a plus de 15 000. 15 000. 1967, il y en avait à peu près une soixantaine. 1980, 200 à 250. Aujourd'hui, 15 000. Alors moi, j'ai un ami qui est fort en maths. Il a pris sa petite calculette. Il a fait une petite projection. Waouh ! Dans 7 ans, tout Israël sera sauvé. Waouh ! Seigneur, amen. Nous sommes dans la fin des temps. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Israël, c'est l'horloge de Dieu. On ne sait pas quand le Seigneur reviendra. On ne sait pas quand le Seigneur reviendra. Mais on sait deux choses. Toutes les nations auront entendu parler de l'Évangile, c'est vrai, jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxième chose, il y aura des Juifs à Jérusalem qui l'accueilleront avec le tapis rouge en lui disant « Baruch haba b'shem Adonai, béni sois-tu qui viens au nom de l'Éternel ». Et donc, nous savons que l'enjeu stratégique pour le royaume de Dieu, c'est quand les Juifs descendants d'Abraham, Isaac, de Jacob, les descendants d'Israël, recevront le salut. Donc, si je vous dis 200 il y a 30 ans, 15 000 aujourd'hui, eh bien, le voile est en train de se retirer, le temps des nations arrive à sa fin, et maintenant, les regards du Saint-Esprit sont tournés vers le Moyen-Orient, les enfants d'Abraham, Ismaël, les Arabes et les Juifs. C'est quelque chose pour nous, de nous faire comprendre que nous sommes dans la dernière heure. Et c'est pour ça que l'opposition par rapport à l'Évangile grandit. Mais là où il y a les ténèbres, là il y a la lumière. Là où le péché abonde, là la grâce abondera. Et je crois que nous sommes dans une société maintenant où la lumière va devenir encore plus lumineuse et les ténèbres vont devenir encore plus ténébreux. Il n'y aura plus de milieu. Parce que, vous savez, cette illusion de la laïcité où il y a un milieu, il y a une neutralité, il n'y a pas de neutralité dans l'esprit. Où il y a l'esprit d'obéissance, où il y a l'esprit de rébellion. Où nous sommes dans la rébellion sous l'emprise de Satan, où nous sommes dans l'obéissance sous l'emprise du Seigneur. Et la lumière sera encore plus lumière, les ténèbres sont encore plus ténébreux et les personnes vont devoir choisir. Et on va voir des personnes se tourner vers le Seigneur. Parce qu'il y a, comme il y avait il y a 2000 ans, des païens qui recherchaient justement la moralité de la parole de Dieu, la moralité, et qui sont devenus ceux qui craignaient Dieu, qui se sont associés avec les synagogues, et c'était des personnes qui ont reçu l'évangile le plus facilement possible. Alors, je sais pas, est-ce qu'on a le temps encore, ou est-ce qu'on est... On fait un arrêt? On fait un petit arrêt? 10h15? Des questions. Allez, on pose des questions. Allez, 2-3 questions. Je n'ai pas nommé le Liban, je n'ai pas fait exprès, mais simplement pour vous dire qu'il y a une différence entre la culture arabe, la langue arabe et les descendants de Ismaël. Le Liban, ce ne sont pas des descendants de Ismaël. Le Liban, ce sont des Phéniciens. Hein, c'est un autre peuple. Et par contre, la frontière du Liban et la frontière d'Israël sont des frontières humaines qui ont été créées en 1920, San Remo, si vous vous souvenez bien, l'Empire ottoman qui a été détruit. J'en parlerai un petit peu avec ces alliances néfastes qu'il y avait entre le sultan de Turc et le Kaiser allemand, hein, parce que nous on se souvient de la Première Guerre mondiale, c'était la France contre l'Allemagne, mais il fallait savoir que cette guerre était mondiale, c'est-à-dire elle était aussi au Moyen-Orient, entre les Turcs et les Allemands contre les Anglais. Et les Anglais ont vaincu cette grande bataille, la dernière charge de la cavalerie dans le monde, par les Anzacs, c'est-à-dire c'était des Néo-Zélandais et Australiens, alliés de la couronne, hein, c'était des ressortissants britanniques, mais ils étaient de Nouvelle-Zélande et d'Australie, la plupart étaient nés de nouveau, ils avaient la Bible avec eux, et ils ont fait une charge de cavalerie à Beersheba, 1917, ils ont vaincu les Turcs et les Allemands, et ça leur a ouvert le passage pour Jérusalem, et le général Allenby est rentré à Jérusalem en 1917, un chrétien aussi, et il n'est pas rentré à cheval, il a dit ce sera le Messie qui rentrera à cheval, donc il est rentré après 400 ans d'occupation de l'Empire ottoman. Israël, ce qu'on appelait la Transjordanie, c'est-à-dire des deux côtés du Jourdain, hein, l'Empire ottoman a été partagé entre deux nations, la France et l'Angleterre. C'est de l'histoire, ça. Alors, tout l'Empire ottoman, il y a eu Atatürk qui a pris seulement la Turquie, et le reste a été partagé entre les Anglais et les Français. Les Anglais ont reçu la Transjordanie, qui est maintenant Israël, la Jordanie, l'Irak, le Koweït. Et la France a reçu le mandat de la Syrie et du Liban. Et donc, ces frontières entre Israël et la Jordanie sont humaines. 1920. Et ce sont des frontières internationales. Maintenant, Israël, selon les promesses, les frontières bibliques, sont de la rivière d'Égypte, c'est-à-dire El Arish, le Sinaï, jusque dans le Liban, jusqu'à l'Euphrate, qui inclut tout le Liban et une partie de la Syrie. Donc on sait que les promesses pour les enfants d'Israël, les tribus d'Israël, incluent le Liban. Le Liban a une bénédiction, mais aussi l'Égypte, puisque on a lu hier Ésaïe chapitre 19, l'Égypte et la Syrie. Il y aura cette route de réconciliation. Donc il y a une bénédiction sur tout le Moyen-Orient, moi j'en suis convaincu, sur les Égyptiens, sur les Syriens, sur les Kurdes. Kurdistan, c'était les Mèdes et les Perses, si vous vous souvenez. C'est eux qui ont aidé. Vous savez, le Seigneur a de la mémoire. Ceux qui ont béni Israël seront bénis. L'Égypte a béni Israël. L'Égypte a protégé Israël. Notre Seigneur a vécu ces deux premières années, alors qu'il était persécuté, qu'on voulait le tuer à Bethléem. Ses parents, l'ange les a amenés en Égypte. Le Seigneur se souvient que l'Égypte a protégé notre Seigneur. Le Seigneur se souvient aussi de Cyrus, le Perse, qui a envoyer les enfants d'Israël de retour. Il y a une bénédiction sur le Kurdistan, il y a une bénédiction sur l'Iran. Si vous connaissez les Iraniens, c'est les plus étrangers à l'islam. Les Iraniens sont des gens très doux, c'est des poètes. C'est l'ennemi qui les a mis sous chape. Et ces Iraniens, ils vivent souterrainement. Plus de 10% de la population d'Iran sont chrétiens, nés de nouveau, en église de maison. Des milliers de personnes, des ayatollahs qui se tournent vers le Seigneur. C'est la réalité de ce qui se passe. Le Moyen-Orient, il bouge. La bénédiction sur le Liban, la bénédiction sur l'Égypte, la bénédiction sur la Syrie. Et je crois souvent quand on est en Israël, quand on habite en Israël, et je vais vous dire moi, entre Israéliens, Juifs et Arabes, on a une bonne communion, une bonne communication. Mais souvent, ça vient des gens de l'extérieur qui représentent certaines organisations, des églises, et qui sont polarisés. Ou ils sont très très pour les juifs, ou très très pour les arabes, et ça ramène une division. Et nous, on leur dit, nous, on veut vivre entre voisins, ensemble, avec le Seigneur. Et souvent, on a besoin de regarder avec les deux yeux. un œil pour Israël, un œil pour Ismaël. Parce que ensemble, c'est ça le cœur de Dieu. On a parlé de la réconciliation, qu'ils deviennent frères. Et quand on sert en milieu arabe, moi je connais des gens en milieu arabe, j'ai une sœur dans le Seigneur qui travaille vraiment dans les territoires disputés, et elle avait peur de venir chez nous. Elle avait vraiment la crainte de venir dans une église, dans une assemblée de juifs messianiques. Et quand elle est venue, le Seigneur a retiré toutes ses défenses parce qu'elle avait entendu qu'on était des méchants, qu'on était des violents. Et souvent, c'est cette attitude qu'il y a, ou anti-juif ou anti-arabe. Alors que le Seigneur, il n'est pas anti-ceci ou anti-cela. Il est pour la réconciliation. Il est pour la paix. Voilà, alors je crois que... Bon, s'il y a encore des autres questions, peut-être ? Ouais. Ouais. C'est ça, Romain ? Ouais. La France ne sera pas sauvée. Le temps des nations. Des païens, ouais. C'est... Ah là, d'accord. C'est quoi la totalité ? Ça, c'est la grande question théologique. C'est quoi la totalité ? Est-ce que la France a déjà eu son heure de visite ? Ou est-ce qu'elle a encore besoin d'une autre heure de visite ? 2000 ans. Est-ce que vous saviez que la France, je veux dire, la France était un des berceaux les plus importants ? Les chrétiens, il y avait les disciples de Jean ont été prêchés en France, à Lyon, à Vienne. Le Rhône, au deuxième siècle, troisième siècle, vous connaissez votre histoire plus que moi, il y a eu des visites, il y a eu des miracles. La France a été touchée. Et c'est vrai, moi, c'est ma prière aussi, parce que je suis aussi, j'ai un cœur pour la France, hein, moi j'aime beaucoup ce pays. Seigneur, ramène. Il y a peut-être encore des païens qui doivent être sauvés là. Il y a peut-être encore une totalité là. C'est entré, t'es pas touché. C'est une bonne question, hein, c'est une bonne question. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que le voile, il est déjà en train de se retirer. Donc, c'est les dernières heures là. S'il faut faire entrer encore un peu des brebis dans la bergerie, c'est la dernière heure. Il faut se dépêcher. Faut pas perdre de temps. Parce qu'après, il va faire noir, il faut faire nuit et on peut plus travailler. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière le printemps arabe ? Le printemps arabe, il faut que ça devienne pire pour que ça devienne mieux, meilleur. Le printemps arabe, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement, la neutralité n'existe pas. Ces nations du Moyen-Orient n'ont aucune éducation par rapport à la démocratie. Il y a toujours eu des personnes qui ont pris le pouvoir par la force, et la plus grande force qu'il y a dans ces pays, eh bien, ce sont les mouvements islamiques. Donc ils ont la main mise sur la société. Et moi je crois que c'est voulu de Dieu pour que les gens crient au Seigneur. Quand on est vraiment dans le besoin, on crie au Seigneur. Et c'est ce que je vois de plus en plus des Tunisiens même qui me disent « Waouh, nous on avait l'espoir de cette démocratie. Et puis maintenant on se retrouve sous cette emprise ici. » Et ils crient à Dieu. Je crois qu'il y a des personnes qui vont se tourner vers le Seigneur. Le Seigneur permet ces choses-là. Il utilise les guerres pour justement que les cœurs se tournent vers le Seigneur. Il va y avoir énormément de personnes qui vont être sauvées dans tous ces pays arabes. J'en suis convaincu. Oui. Ouais. Ben là où il n'y a pas la vérité, là il n'y a pas le sel et la lumière. Eh bien, les ténèbres s'engouffrent. Et si on peut revenir peut-être à l'histoire, les dernières îles à tomber, qui étaient envahies par l'Allemagne. L'Allemagne avait envahi toute l'Europe, vous vous souvenez, il y avait le débarquement en Normandie. Et les dernières îles qui appartenaient aux Allemands, je crois qu'elles sont même, les Allemands ont quitté après la signature de l'armistice. C'était les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey qui se trouvait entre l'Angleterre et la Normandie. Et ça, pour moi, c'est ça, c'est la contre-offensive. Vous savez, quand Hitler, quand le débarquement en Normandie, c'était en 44, mais juin 44, les Alliés ont conquéri toute la France, ils sont rentrés, ils étaient à la frontière de l'Allemagne, et c'était l'hiver 1944, et Hitler, qui avait déjà tout perdu, ça y est, c'était juste une question de semaines pour que l'Allemagne tombe. Il y avait déjà toutes les destructions des armements, toutes les usines allemandes avaient été détruites, et sans la Suisse, qui pendant un an a fourni de l'armement entre 44 et 45 aux Allemands, il n'y aurait plus de munitions, puisque tous les armements avaient été détruits. Et Hitler a lancé ses dernières armes, ses derniers Panzer, et c'était la contre-offensive des Ardennes. La contre-offensive des Ardennes a empêché les Alliés de rentrer à Berlin en quelques semaines, et ça a duré plus de 6 mois. Dans ces 6 derniers mois, le plus grand nombre de Juifs a été anéanti dans les camps de concentration. La contre-offensive des Ardennes, pour moi, c'est la contre-offensive de l'islam dans le monde occidental. Parce qu'il y a un vide. Et quand il y a un vide, eh bien, le mensonge s'engouffre. Alors que tous ces pays du Moyen-Orient, ils en ont marre de l'islam. Ils en ont marre, ils étaient sous la domination pendant des centaines d'années. Et maintenant, ils aspirent à la liberté. Je crois qu'il y a... C'est pour ça, pour moi, le défi pour la France, pour l'Europe, c'est il faut que les évangélistes soient dans la rue. Quand je vais dans les marchés, moi j'étais en Angleterre à Leicester, il y a la grande statue de Montfort. Montfort, c'était celui qui avait persécuté les Juifs, et c'était aussi celui, ils avaient tué les Lollards. Les Lollards, c'est ceux qui avaient traduit la Bible en anglais, du latin en anglais. C'était des colporteurs avant la réforme. Ils ont été tués, on a rejeté le peuple de Dieu, les Juifs, la parole de Dieu. Et maintenant, à Leicester, c'était l'ancienne capitale d'Angleterre, avant Londres, vous avez des évangélistes musulmans, des grandes tables immenses avec des Corans. Ils sont tous habillés avec les djellabiyas, avec les baskets, les barbes. Troisième génération, ils parlent anglais très très bien. Troisième génération, ils viennent sûrement du Pakistan ou un truc comme ça. Et ils sont dans les rues. Je cherche les chrétiens, je ne les vois pas. Les chrétiens ne sont pas là. Et ils sont là tous les jours. Et ils donnent des Corans. Et ils expliquent, nous obéissons aux enseignements de Christ. Parce que votre Bible a été falsifiée, elle a été trafiquée. Vous avez déjà parlé avec des musulmans, leur truc ? Votre Bible a été falsifiée. Alors moi, je les regardais, je lui ai dit, mais monsieur, est-ce que vous êtes éduqué ? Pourquoi vous me dites ça ? Vous ne savez pas que la plus grande découverte archéologique de nos temps, ce sont les rouleaux de la mer Morte, trouvés en 1947 par des Bédouins. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ces rouleaux ? Ben, dans ces rouleaux, il y avait tous les livres de la Bible, écrits il y a 2000 ans. Donc c'est la même Bible que nous avons dans nos mains. On est sûr, archéologiquement, prouvé que c'est la Bible que Jésus lisait aussi. Donc il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de changement. Vous n'avez sûrement pas étudié ce sujet. Alors tout de suite, lui, là. D'où est-ce que vous venez ? On sentait l'esprit, je sentais l'esprit antéchrist là, qui sortait. Si je lui avais dit Israël, il m'aurait mis de côté, politisé. Alors je ne voulais pas lui dire que j'étais d'Israël. Je dis, je suis une personne qui cherche la vérité. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est que Dieu est un Dieu de vérité. Et donc pas un Dieu de mensonge. Alors tout de suite, il y en a 2-3 qui sont arrivés. Là, ils étaient en un petit groupe. Et puis j'ai compris tout de suite. Ils ont déjà pris la place. Quand on rejette le peuple de Dieu, la parole de Dieu, le vide se fait. C'est vacuum, hein. Voilà. Et ça, c'est le problème. Il faut être dans la rue avec les Bibles. Il faut être, il faut inviter... Enfin, je vous laisse... Moi, j'ai assez de problèmes comme ça. Je reviens lundi. Vous savez pas ce qui m'attend, moi, lundi. Vous savez pas ce qui m'attend lundi. Hein, je vous laisse vos problèmes. Puis, mais je prie pour vous, vous priez pour moi, d'accord ? C'est le même esprit, hein. C'est le même esprit, hein. C'est le même esprit. Ouais. C'est très très profond. Ouais, écoutez, nous on a l'unité. Moi je vais vous dire, nous on a des pastorales. On n'a pas encore des dénominations, mais ça vient de plus en plus, puisqu'on grandit de plus en plus. Donc il y a des groupes qui s'organisent ensemble, le même tendance théologique. Il y a des différences théologiques dans les juifs messianiques. Hein. Il y en a des très très libéraux, enfin, libéraux par rapport aux expressions de la foi. Il y en a qui sont très très. Je veux dire, rabbinique, ouais, y a toutes sortes, hein. Y a des charismatiques, il y a des réformés, y a un peu de tout. Mais nous, ce qu'on a, ce que je veux vous recommander à chacun d'entre vous, c'est que on a des rencontres entre tout pasteur et dirigeant d'assemblée, de toutes les dénominations confondues. On l'appelle safe, sitting at the feet of Yeshua, c'est-à-dire être assis aux pieds de Jésus. Et c'est 3 jours dans le désert. Donc on passe 3 jours dans le désert. Il n'y a personne qui prêche, il n'y a pas de sujet. On arrive dans le désert, dans le Negev, et le matin, 5 heures du matin, on est pris en petite camionnette et on est dispatché dans le désert tout seul avec une Bible et une bouteille d'eau. Tout seul. Alors moi, je ne sais pas si vous avez déjà été dans le désert. Dans le désert, on s'entend penser. C'est incroyable, c'est quelque chose. Et le mot en hébreu, midbar, désert, c'est le même mot, la racine que parler. Dieu nous attire toujours au désert pour nous parler. Il habite en ville, mais il parle au désert. Midbar, parler. Et donc, moi, je me souviens la première fois que j'étais là, dispatché à 5h30 du matin avec une bouteille d'eau et la Bible. Et puis, on s'entend penser, on s'entend cogiter. Et puis après, bon, on sort sa liste de prières. On donne son cœur, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, mais combien de temps tu peux prier? Alors tu as prié 1 heure, tu as prié 1 heure et demie, et puis après c'est le silence, et là Dieu parle. Moi je vous recommande, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de voisin, on est seul avec le Seigneur. Et ça c'est de 5h30 jusqu'à à peu près 11h, après le soleil tape très très fort, ça fait très chaud. Alors vers 11h, 11h30, ils viennent nous rechercher. Alors on est un point de ralliement, tout le monde sort de son trou, de ses trucs. Hein, le désert, il est immense. Hein, il y a les aigles autour de nous, il y a les bouquetins, c'est une réserve naturelle. Et ensuite, on mange le déjeuner, et après, on est assis tous ensemble, et chacun partage son expérience avec le Seigneur. Merci. Merci, merci. Alléluia. Alors, chacun partage son expérience avec le Seigneur. C'est pas le prêchi-prêcha, c'est son vécu. Et à travers ça, on voit le cœur du frère. Moi, c'est ça que j'aime. On voit le cœur du frère. Et tous les problèmes théologiques sont de côté. On voit le cœur du frère, on voit son fardeau, on voit son besoin, on voit sa vision. Et là, c'est quelque chose qui unit. C'est 2 fois dans l'année. Alors on est à peu près une soixantaine, 60, 70, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus. Alors là, ça touche 60, ça touche peut-être 2 tiers des assemblées. Ouais, il y a à peu près 80 assemblées en Israël. Mais on a aussi des personnes arabes. On a des pasteurs arabes qui se sont joints à nous ces dernières années, on les a invités, donc on fait partie. Et il y a aussi des personnes qui travaillent aussi dans différents ministères. Donc en plus que donc on travaille aux relations personnelles. Et je crois que les relations personnelles, ce que vous avez fait là ces 2 derniers jours, c'est super. Je vous encourage à le faire encore. Vous trouvez un truc dans les Ardèches là ou dans un dans le Jura. Voilà. Je sais pas si vous voulez. Oui? Ben que ce voile puisse être retiré, moi je crois que c'est la volonté de Dieu, la crédulité. Je crois que c'est très important de prier pour cette révélation. C'est une révélation du Saint-Esprit. Moi je crois que il n'y a rien qui puisse humainement sauver une personne. C'est Dieu qui sauve. Nous, on est simplement des témoins, on amène la bonne nouvelle et c'est comme quand on va dans le verger, on va cueillir les fruits. Il y a des fruits qui sont verts, on les laisse sur l'arbre, j'espère. Parce que souvent, on a la tentation de prendre les fruits verts et les tirer, et puis c'est pas bon. Et les fruits qui sont mûrs, eh ben, ils tombent tout seuls. Moi, je vais donner un témoignage d'une personne, il s'appelle Shlomo Cohen. Il n'y a pas plus juif que Shlomo Cohen. Cohen, c'est le sacrificateur, vous savez. Il a la soixantaine. Il est venu parce que sa femme a reçu le Seigneur. Alors lui, il a la kippa, c'est-à-dire c'est un juif religieux. Donc il est venu, il rentre dans notre assemblée. Et puis, je donne un message sur les prophéties du Tanakh, de l'Ancien Testament, par rapport à Yeshua, Jésus. Et je le vois, il regarde comme ça, il écoute, il est très très intense. Je me dis, oh là là, bon, et c'est peut-être trop fort pour lui, il ne reviendra peut-être plus. La semaine d'après, il revenait, il avait mis sa kippa dans sa poche, et il était très attentif au message. La troisième fois, la troisième semaine, il est venu, j'ai fait un appel, j'ai demandé aux personnes qui voulaient rentrer dans une relation personnelle avec le Seigneur. Il est venu, il s'est approché, il dit, est-ce que moi aussi je peux recevoir mon Messie? Quand il a dit, à Mashiach Sheli, mon Messie, il avait tout compris. Il avait tout compris, son Sauveur. Et 3 mois plus tard, on était une retraite au lac de Galilée, on avait une retraite de famille, hein, de toute l'assemblée, on fait ça de temps en temps, et il est venu avec sa serviette à côté du lac de Galilée, il m'a dit, est-ce que je peux moi aussi passer et faire le mikvé? Le mikvé, c'est-à-dire le baptême d'eau. Et quand un juif vous demande le baptême d'eau, parce que nous, on compte pas les décisions pour le Seigneur, on compte les baptêmes. Les baptêmes, c'est l'engagement vraiment où la personne qui est juive, qui va se faire baptiser d'eau, c'est vraiment, il a pris un engagement, il va risquer d'être rejeté par toute sa famille, toute sa communauté. C'est très très fort. Pour nous, le baptême, c'est vraiment c'est de passer de la vie à la mort. Hein. C'est très important pour la culture juive. Donc pour lui, de demander cela, c'est pas l'homme qui l'a forcé, c'est le Saint-Esprit qui était sur lui. Alors je me suis retrouvé à dire, comme Philippe a dit à l'eunuque, si tu crois, oui, c'est possible, viens. Et il a été baptisé d'eau. Et vous avez vu, c'était une de ces photos qu'il y avait dans la présentation. Et quand il s'est levé, il a commencé à chanter quelque chose. C'était vraiment... Et pour moi, c'est un encouragement de savoir, merci Seigneur, tu ouvres les yeux. Les premiers seront les derniers. Et parce que souvent, je crois que c'est plus de 80% des personnes qui viennent au Seigneur ont moins de 24 ans. Souvent, c'est des jeunes qui viennent au Seigneur. Hein, mais là, de voir quelqu'un de 60 ans, religieux, juif, c'est un miracle. Et voilà, on en a vu beaucoup de miracles comme ça. Je peux vous raconter des autres histoires, mais pour vous encourager que le voile commence à se retirer d'Israël et le temps des nations arrive à sa fin. Voilà, donc vous terminez votre époque et nous, on est en train de la commencer. Mais de toute façon, on sera tous ensemble. Hein? Et c'est pour ça qu'on a besoin de se soutenir et de s'encourager mutuellement. Parce que il y a des points où le Saint-Esprit travaille beaucoup plus puissamment dans le monde. Je crois que l'Europe, c'est un des continents où il y a le moins d'influence, puisqu'il y a une énorme... Je crois que c'est le continent le plus difficile par rapport à l'Évangile. Moi, j'étais dans d'autres pays. En Chine, c'est incroyable, parce qu'ils ont l'amour. C'est incroyable, ce baptême d'amour qu'ils ont pour Jésus. C'est ces Chinois dans les églises souterraines. Et au Brésil, enfin... Je veux vous encourager, vous êtes dans un terrain qui est difficile, mais il faut creuser profondément parce que vous avez de l'eau en dessous. Vous avez des sources d'eau. Il y a quelque chose sur la France qui, je crois, il faut déboucher ces puits anciens. Vous savez, les Écritures, déboucher les puits anciens et remettre les racines plus profondément. Vous avez de l'eau. Vous n'êtes pas dans le désert. Vous avez de l'eau, mais il faut creuser. Il faut puiser, il faut revenir. Si je t'oublie, Jérusalem, voilà. On va prendre un petit arrêt, peut-être, une petite pause, hein? Puis on continue après, c'est ça ou...
Donc une pause d'un quart d'heure, je crois, hein, pas plus. Un quart d'heure pour reprendre une demi-heure jusqu'à 12h15.
Voilà, je vais devoir vous quitter bientôt. C'était vraiment une bénédiction d'être ici avec vous. C'est la dernière session, là, parce que j'ai un rendez-vous de famille. Vous savez, mes parents habitent dans le nord de la France, 83 et 80 ans, et j'essaye de venir au moins une fois dans l'année, et ça coïncidait super. Donc je vais être chez mes sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mes parents qui ont besoin de Dieu. Donc si vous pouvez prier pour mes parents, pour ma famille, il n'y a pas de prophète dans sa propre famille. Et en fait, mon père, j'ai amené avec moi, j'avais un ami arabe, pasteur, et je l'ai invité chez mon père, et lui, il a témoigné à mon père, et c'est très très fort. Il a été très très bousculé là dans sa, parce que il est une personne humaniste, hein, voilà. Donc c'est le fardeau de mon cœur, c'est ma famille, parce que moi j'étais sauvé par la grâce de Dieu, en fait. La brebis perdue, voilà. Alors, dans Jérémie chapitre 31, on a toute cette révélation par rapport à Israël. On nous demande de pousser des cris sur de joie sur Jacob. Alors je crois que ceux qui sont du nord ont poussé des cris de joie sur l'île, parce que 3-0, hein. Voilà. Donc l'île a gagné. Mais normalement je devais être au match. Oui, ça devait être ce soir. Mais ils ont remis. Donc mon beau-frère m'a dit, écoute, j'ai acheté un billet pour le parce qu'il y a une soucoupe volante là juste à côté, c'est le grand stade nouveau, et je devais être là-bas. Alors je lui ai dit, écoute, je sais pas combien Lille va gagner, mais moi je veux vous dire que ce qui va se passer ici ce soir, hein, je parle d'hier soir, hein, c'est plus que 3-0. Ça va être pour la gloire du Seigneur, et j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu comment le Seigneur a travaillé dans les cœurs et agi, et je peux vous dire, il faut pousser des cris de joie, non pas pour nos équipes sportives, mais ici il est dit de pousser des cris de joie sur Jacob. Alors vous vous souvenez, c'est qui Jacob? Jacob, c'est le petit-fils de Abraham. Jacob, c'est celui qui a eu son nom changé de Jacob en Israël. Donc le mot Israël est un nom qui a été donné surnaturellement à une personne qui s'appelait Jacob. Jacob, ça vient du mot Ekev, qui veut dire le talon, parce qu'il était frère jumeau, il a accroché le talon de son frère est sorti devant. Et Jacob, ça veut dire aussi Akov, ça veut dire un peu tortueux, parce qu'il a toujours essayé de manigancer ses histoires avec l'histoire de sa mère aussi qui l'a aidé, etc. Et sur le chemin de la réconciliation, c'est très intéressant quand vous lisez dans le texte, il est sur le chemin de la réconciliation, 20 ans sans voir son frère, et puis il dit non, quand même, il faut quand même que je me réconcilie. Alors il envoie les cadeaux d'abord, hein. Il a un petit peu peur, et puis il rencontre l'ange de l'Éternel, et l'ange lui dit, quel est ton nom? Il lui demande simplement une question, quel est ton nom? Il y a tout dans un nom, il y a toute son identité. Jacob, ton nom ne sera plus Jacob. Il sera Israël. Le Seigneur nous donne un nouveau nom. Toutes choses sont nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. C'est le ministère de réconciliation. Il le réconcilie avec son frère, mais aussi il les réconcilie avec Dieu. Parce que si vous vous souvenez, avant Péniel, là où il rencontre l'ange de l'Éternel, il appelle la place Péniel, face de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est toujours le vis-à-vis de Dieu. Hein. Avant, il appelle toujours... Il appelle toujours le Dieu de mes pères. Il dit le Dieu de mes pères, mais là il rencontre Dieu personnellement. Réconcilié avec le Seigneur, réconcilié avec son frère, c'est Jacob. Jacob qui devient Israël, et Israël sera le père de 12 fils qui seront les 12 tribus d'Israël. Et ici on doit pousser des cris de joie sur Jacob. C'est l'Église qui doit pousser des cris de joie sur Jacob. C'est notre équipe. Ce que Dieu fait en Israël, c'est notre équipe. Il y a un plan stratégique pour Israël. Qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne le veulent pas. Oh non, moi je veux rien faire avec Israël. Moi, Dieu il est partout. C'est vrai. Dieu est partout. là où deux ou trois sont réunis, mais ce qu'il est en train de faire en Israël est quelque chose de spirituel qui a une influence sur notre nation. Et ici, donc, on éclate d'allégresse à la tête des nations. Chantez, élevez vos voix et dites, ça c'est la prière d'intercession, vous avez demandé qu'est-ce qu'on peut prier, Éternel, délivre le reste d'Israël. Pourquoi le reste ? Israël, les descendants d'Israël sont seulement 14 millions dans le monde, alors que les descendants de Ismaël sont plus de 400 millions. Dans toutes les générations, il y a eu l'ennemi qui a voulu détruire le témoin de Dieu dans l'histoire. Parce qu'Israël, eh bien, c'est le Dieu des promesses. Et si Dieu est fidèle envers Israël, il le sera envers nous. Si Dieu n'est pas fidèle envers Israël, comment peut-on savoir qu'il sera fidèle envers nous ? Dieu est un Dieu fidèle et regardez ce qu'il fait. Je les ramène des pays du septentrion, du nord. Quand on regarde une carte, eh bien les pays du nord, c'est quoi ? Ce sont les pays russophones. Et les pays russophones, le russe, c'est la deuxième langue la plus parlée en Israël. On a l'hébreu, le russe, puis l'arabe. Je les ramène des pays du nord. Dieu a suscité des juifs du monde entier, mais surtout des pays du nord, de revenir en Israël. 1990, le mur, le rideau de fer s'ouvre et plus d'un million et demi de juifs sont venus en Israël. 25% de la population. Il y a des prophéties qui se sont passées dans le passé, des prophéties qui arriveront dans le futur et des prophéties qui arrivent dans notre génération. Le verset 8, c'est une des prophéties. Je les ramène des pays du nord, des extrémités de la terre. Quand vous venez dans notre communauté, on parle 20 langues. Alors on a des Brésiliens, vous avez le groupe de louanges, il a fait un disque là-bas. Moitié hébreu, moitié portugais, eux ils aiment bien la louange, ils sont dans la louange. On a des Allemands dans l'organisation, ça c'est super. Si vous avez des Allemands dans l'organisation, là vous êtes au point. Chacun a ses qualités, hein. Et puis on a des hispanophobes, des hispanophones. Non, on peut pas être hispanophobe. Hispanophone, voilà, au fil. Voilà. Donc on a des Argentins, des Boliviens, on a des Canadiens, des Anglais, des Croates, des Hollandais et des Français qui ont fait leur alia. Alors pour vous dire qu'il y a plus de 2000 Français qui ont déjà fait leur alia cette année. Et on a aussi des croyants en Jésus, des Français, qui sont venus s'installer en Israël. Et pour moi, c'est aussi un autre sujet de prière. Seigneur, amène des Français croyants en Israël pour construire le corps du Christ. Et pour, parce que vous savez, il y a 600 000 Juifs en France qui reviennent. Ils veulent venir après l'affaire Mera à Toulouse. La communauté juive en France a pris conscience qu'il n'y avait pas de sécurité ici dans ce pays. Ils ont déjà retiré tout l'argent des banques, ils sont investis dans l'immobilier en Israël, ils préparent leur venue. Donc on s'attend à une alia massive de juifs de France. Et ils se préparent. Et il y en a déjà qui travaillent en France, mais qui vivent en Israël, ils font les week-ends. C'est pas loin, hein ? 3h30 d'avion. Ils reviennent. Et pourquoi ils reviennent ? Eh bien, regardez pourquoi ils reviennent, parce que c'est important de comprendre. Nation, écoutez. Il faut écouter, puis ce que je vais vous dire, vous allez devoir le répéter, au moins 10 personnes, peut-être dans votre église, parce que c'est ça le mystère d'Israël. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Qui a dispersé Israël ? L'Éternel. Prophétisez. Les prophètes ont prophétisé. Israël sera dispersé dans toutes les nations. Notre Seigneur, le plus grand des prophètes, a prophétisé, il a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien j'ai désiré te garder comme une mère poule garde ses poussins. C'est aussi l'image du berger. J'ai voulu te garder tous ensemble, mais tu ne m'as pas laissé. Ta ville sera détruite. Il a prophétisé la destruction de Jérusalem. Et je ne reviendrai pas tant que vous direz « Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur », c'est Matthieu, chapitre 23. Hein? Donc il prophétise la destruction de Jérusalem. Et l'Éternel qui a dispersé Israël, la diaspora, les Juifs dans le monde entier ont été exilés, Donc, il y a la première révolte en 70, la deuxième en 135, la révolte de Bar Korba, où il était interdit à des juifs d'habiter en Israël. Et celui qui a dispersé Israël, il va les rassembler. Alors un jour c'est comme 1000 ans, 2000 ans plus tard, il rassemble les juifs. Pendant 2000 ans, le pays d'Israël était sous domination, occupation d'étrangers. Les Romains, les Byzantins, les musulmans, les croisés, les Ottomans, les Britanniques. Et enfin, en 1948 et en 1967, Jérusalem réunifiée, le temps des nations arrive à sa fin. C'est le commencement de la fin des temps, qui peut durer longtemps, hein. Moi je ne prophétise pas quand ce sera, mais celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et les juifs du monde entier reviennent en Israël. Je vous ai dit, 1948, 600 000 juifs, aujourd'hui 7 millions de juifs. La moitié de toute la population juive est déjà en Israël, il manque l'autre moitié, elle va revenir. Car l'Éternel rachète Jacob, le délivre de la main d'un plus fort que lui. Racheter, ça veut dire payer la rançon. Le Seigneur veut payer cette rançon pour ramener les Juifs entiers de Jérusalem. Ce sera le signe pour les nations. Le signe pour les nations, est-ce qu'une nation peut naître en un jour? Ésaïe 66. La langue hébreu que nous parlons était une langue morte, comme le sanskrit ou le latin. Elle est reparlée maintenant après 2000 ans, c'est un miracle. C'est pas 20 ans, c'est pas 200 ans, c'est 2000 ans, imaginez-vous. Alors, d'abord le naturel, puis le spirituel. Le Seigneur amène les Juifs du monde entier en Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, c'est dans Ézéchiel 24. « Je vous retirerai d'entre les nations. » Il parle d'Israël. Hein. « Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. » L'eau pure, c'est toujours le signe de la régénération. La régénération vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient par la révélation de Jésus, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Seulement à travers cette nouvelle naissance, on reçoit l'eau de la régénération. Le Seigneur prophétise ici, je vais les sauver, ils se tourneront vers moi, ils seront mon peuple. J'ôterai de eux les souillures, les péchés, je les amènerai dans leur pays. C'est intéressant ici, dans leur pays. Abraham, Isaac, Jacob, à ta postérité à toujours. On n'a pas le temps de rentrer dans toute l'histoire. Il y a un pays, un peuple, un Dieu. Quand les trois se mettent ensemble, c'est la rédemption. Et ici, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, vous observiez mes lois. Et donc ici, on voit le plan de Dieu. Amener les Juifs en Israël, puis les sauver. Et ce salut, tout Israël sera sauvé, il y a tout Israël sera sauvé, ça ne veut pas dire que tous les juifs du monde entier seront sauvés, mais la grande majorité entreront dans ce salut, et ce sera la résurrection d'entre les morts pour les nations, ce sera le signe des nations. Ces juifs qui n'ont jamais cru en Jésus, maintenant se tournent vers Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est vivant, le signe de sa fidélité pour les nations. Alors, pourquoi ce tumulte parmi les nations et pourquoi les nations s'agitent-elles? Toutes les résolutions des Nations Unies contre Israël. Israël, c'est toujours le trouble-fait, celui qui empêche la paix dans le monde. C'est comme ça que c'est perçu dans les médias. Hein? Alors, une grande question qui est posée ici, au verset 2. Les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? C'est un enjeu spirituel. C'est contre Dieu, c'est contre celui qui a été choisi loin. Alors, les rois, c'est les politiques. Les princes, c'est ceux qui tirent les rênes de la société. Ce sont les princes médiatiques ou culturels ou économiques. Hein. Et nous avons ici leur déclaration. C'est la tour de Babel. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, ni Dieu ni maître. Ce sont ce que les nations veulent. Ils veulent s'unir pour être quoi? Pour être forts, pour se construire un nom. C'est la mondialisation, c'est le système dans lequel on entre, où Mammon devient, je crois, la puissance dont il faut se méfier le plus. Moi, c'est ce que je dis. Hein, l'islam, c'est un truc, mais Mammon, c'est autre chose. Parce que Mammon, ça a de l'emprise beaucoup plus. On voit plus facilement les... Et il faut faire très attention. très attention. Et on le sait dans le verset 2 de Éphésiens, chapitre 2, il y a le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et cette rébellion, elle a été depuis des générations. Et c'est très intéressant de voir ce psaume 2 qui est déclaré. C'est bien de lire les commentaires d'autres personnes qui ont écrit sur la parole de Dieu. Ah d'accord. Non, c'est bien si tu fais de l'effet comme ça, c'est ça. On va faire un appel là. C'est bien. Regardez ce verset. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vaine pensée. Le commentaire des apôtres. En effet, contre ton saint serviteur Yeshua, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors, Hérode et Ponce Pilate, des ennemis jurés, ils ne s'entendaient pas du tout. Les ennemis d'hier seront les amis de demain contre l'Éternel et contre son oint. C'est pour ça que nous ne sommes pas ni de droite ni de gauche. C'est très important de comprendre. On ne peut pas mettre sa confiance dans les partis politiques parce qu'ils changent souvent casaque. Et c'est très important de comprendre pour nous que les nations sont liguées contre l'Éternel et contre celui qu'il a choisi, c'est-à-dire le roi des rois, le roi qui va régner. Et ici, je voulais vous parler un peu des alliances néfastes. Si vous regardez sur votre droite, en bas, c'est Hérode et Ponce Pilate, le juif et celui des nations. Je vous ai parlé un peu ici du Kaiser, de la Première Guerre mondiale avec le sultan. Quelque chose dont on parle très peu dans l'histoire de France, parce que moi je suis un historien aussi, je recherche l'histoire de France. François Ier, avec Suliman le Magnifique, l'alliance contre les Habsbourg, qui a permis en fait aux musulmans, aux Ottomans de conquérir tous les Balkans. Les Balkans sont devenus musulmans avec l'aide de ce roi français. François Ier, qui sont des alliances néfastes. Et tout en haut, regardez, vous avez Hitler et le Moufti de Jérusalem. C'était le dirigeant spirituel de Jérusalem. Et il vient voir Hitler pour lui proposer un grand plan. Le plan, justement, de l'extermination des Juifs, non seulement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Donc beaucoup de ces jeunes musulmans de Jérusalem vont s'enrôler dans les Waffen-SS et vont attendre l'arrivée du Afrika Korps, c'est-à-dire les soldats allemands en Afrique du Nord avec l'aide des Italiens. Ils vont passer par la Tunisie, la Libye et ils vont arriver jusqu'en Égypte. Leur plan, c'est de rentrer dans la Palestine, qui était sous mandat britannique, et de détruire dans l'œuf, avant la création de l'État d'Israël, les Juifs qui étaient là. Ils sont arrêtés, ces Allemands et ces Italiens, dans un petit village qui s'appelle El Alamein, 1942. Le Seigneur a donné la victoire aux Britanniques. Montgomery, celui qui se souvient. C'est historique, on peut regarder, vous regardez. Voilà. Le plan, les ennemis d'hier seront les amis d'aujourd'hui. Regardez toutes ces alliances, l'Iran avec la Syrie. Au milieu, on a le chef du Hezbollah et le chef du Hamas. C'est un sunnite et un chiite. Les chiites et les sunnites se détestent, ils se tuent. La guerre en Syrie, la guerre civile, est une guerre inter-islam. Mais là, ils sont unis. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est à la frontière du Liban, le Hezbollah, et un qui est à la bande de Gaza, au sud. Ils ont un ennemi commun, c'est Israël. Pourquoi se liguent-ils contre l'Éternel et contre eux son oint? Alors, attention, manipulation. Je ne sais pas si vous avez un signe comme ça dans votre ville, mais je vous recommande de faire très attention à ce que les médias disent parce qu'ils ne sont pas neutres. Si vous pouvez retenir quelque chose par rapport à Israël, il n'y a pas de neutralité. On est pour le plan de Dieu ou alors on est rentré dans l'influence justement du monde. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Vous savez, c'est comme des petites fourmis qui qui se baladent là, ce serait très facile, très tentant de, après une semaine de travail, de mettre ton pied et puis d'écraser tout ce qu'ils font. C'est le Seigneur, il est assis dans les cieux. Nous sommes assis avec lui dans les cieux. Et plus on est assis avec lui dans les cieux, plus on voit que nos problèmes sont tellement petits. Le Seigneur rit. Et ensuite, après avoir ri, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et ma conviction, c'est que le retour du Seigneur, c'est la colère. Dans la Bible, il est dit que le Seigneur est lent à la colère. En hébreu, erer apaim, c'est-à-dire qu'il a les narines très très longues. La colère vient toujours du nez, la moutarde monte au nez. C'est ce qui est marqué en hébreu. Hein. Erer apaim vera fresed. C'est-à-dire il est lent à la colère. Donc il a les narines très longues et jusqu'à ce qu'il se mette en colère, ça prend du temps. Vous savez, quand il a prophétisé sur Abraham, il a dit, je vais détruire ces nations cananéennes, ce sont des nations idolâtres. Il le dit à Abraham, mais ne va pas les détruire du temps d'Abraham, ni du temps d'Isaac, ni du temps de Jacob, ni du temps de la captivité d'Égypte, mais il va attendre que Josué, plus de 500 ans après, le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. Et souvent, nous, on dit, ben, le Seigneur, il a promis, mais il l'a pas fait. Vous vous souvenez, les martyrs sous l'autel, Seigneur, jusqu'à quand? Attends, encore un peu. Encore un jour de repentance. Un jour pour se tourner vers le Seigneur. Sa colère va venir. L'agneau de Dieu, c'est aussi le lion de Juda. Et je crois que c'est important de comprendre ce contexte parce que nous sommes arrivés au point de la colère de Dieu. Il va susciter les nations, il va les juger à Jérusalem. Les nations bouc, il y a des nations brebis et des nations bouc. Regardez, Luc, c'est la venue à Nazareth. Il se leva pour lire la lecture du livre de Ésaïe. Vous vous souvenez? Il est dans la synagogue, là où il a vécu. Il ouvre le livre de Ésaïe et il lit dans ce livre de Ésaïe ces versets. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Il s'arrête là et il s'assied. Les gens sont étonnés. Il n'a pas lu la suite. Qu'est-ce qu'il y avait dans la suite? Mais là il dit, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tout ce que la première venue du Seigneur, c'est pour accomplir ce qu'il a déclaré. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. Voilà. Et regardez ce qu'il n'a pas dit. Un jour de vengeance de notre Dieu. Il n'est pas venu pour la vengeance. C'est l'année de grâce qui a duré 2000 ans. Nous sommes sous sa grâce. Mais quand il revient, ce sera le jour de vengeance. Pourquoi? Regardez bien. Pour consoler les affligés. Est-ce que la vengeance peut consoler les affligés? Dans le monde, qu'est-ce que les gens recherchent? La justice. Pourquoi il n'y a pas de justice, Seigneur? Pourquoi tu n'es pas intervenu? Seigneur, pourquoi il y a tellement d'injustice dans le monde? Le Seigneur dit, je suis venu la première fois pour apporter le pardon. Maintenant, je reviendrai pour apporter la justice. Et la justice commence par la maison de Dieu. Ça commence par nous. Alors souvent, nous, on veut la justice. Seigneur, fais la justice dans le monde, mais... Avant de regarder la poutre, le truc qu'il y a dans l'œil, regarde. Parce que nous, on a peut-être en germe, on a les mêmes choses de ce monde. Vous vous souvenez? Quand il y a cette révélation de la sainteté, Ésaïe, il est dans le temple. Oh, je suis un homme dont les lèvres sont impures, qui est au milieu d'un peuple impur. Un prophète qui a les mêmes péchés que son peuple autour de lui, il ne peut pas être efficace. Et la sainteté de Dieu lui montre son besoin de repentance. Et le Seigneur pourvoit, il lui donne les braises qui sont où? Sur l'autel, là où il y avait les sacrifices, c'est des braises mêlées de sang. C'est ce sang qui va le purifier, qui va lui brûler les lèvres. C'est pour ça que le livre d'Ésaïe, c'est 66 chapitres, hein, parce que c'est plus facile pour lui peut-être d'écrire que de parler après. Donc nous nous trouvons dans une situation ici, où le second retour de l'Éternel, c'est pour apporter sa justice. Donc, le Seigneur n'a pas fini son travail. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Nous attendons son retour. Les premiers chrétiens attendaient son retour. Ils disaient Maranatha. Et ils se préparaient à son retour. parce qu'il vient nous chercher comme son épouse. Et son épouse doit être, comme on dit, nous on dit en hébreu, fixe, c'est-à-dire pas de tâche. Vous savez, quand les gens se marient, ils passent toute la journée chez le coiffeur, les robes. On a 2000 ans pour se préparer. Hein. Et regardez ce qu'il dit. C'est moi qui ai oint, choisi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc c'est pas seulement le Seigneur, c'est pas seulement l'épouse, c'est un lieu qui s'appelle Sion. Et je ne sais pas si on a le temps beaucoup de parler de Sion, mais Sion, c'est Jérusalem. Commémoration, endroit sec, protégé ou renforcé, ce sont les racines de Sion qui se trouvent 160 fois dans la Bible. Donc Sion, c'est Jérusalem. Chaque fois qu'on entend parler de Sion, c'est Jérusalem. Quand on entend des gens qui sont sionistes, c'est quelque chose de positif. C'est négatif dans les médias parce qu'on sait par qui les médias sont influencés. Le Seigneur a promis, là où il est mort, crucifié pour nos péchés, qu'il reviendra dans cette même façon. Regardez, la colère de l'agneau, parce qu'Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu va juger les nations selon leur attitude par rapport à Israël. La colère de Dieu viendra sur les nations dans la façon dont ils vont attaquer la prunelle de Dieu. Dieu a un amour pour Israël, c'est même la prière de David, « Garde-moi comme la prunelle de ton œil ». Et dans Zacharie, il est dit qu'il va amener toutes les nations et les juger à Jérusalem. Jérusalem sera une pierre d'achoppement pour les nations. C'est le rêve de tous les grands politiques de faire la paix au Moyen-Orient. C'est le rêve de M. Obama. C'était le rêve de M. Sarkozy. C'était le rêve de tous les grands, de Poutine. Celui qui va pouvoir faire la paix au Moyen-Orient, ça va être un champion de la politique. Et l'Antéchrist va réussir pendant 3 ans et demi à faire une paix entre juifs, arabes, nations, une paix politique qui sera temporaire, mais qui révélera en fait le prix à payer. Parce que l'ennemi, oui. Jérusalem qui est divisée ou qui va être divisée? Qui vole? Oui. La chose qui a uni Jérusalem, c'est le tram. Si vous venez à Jérusalem, venez, prenez le tram, vous allez voir, vous allez aller d'un quartier arabe à un quartier juif, le tram, il a fait l'union avec Jérusalem. La plupart des Arabes qui habitent à Jérusalem, ils veulent rester israéliens. Ça, il faut savoir, hein. 75% de la population des gens qui habitent à Jérusalem veulent rester israéliens. Donc c'est... Jérusalem ne sera pas divisée. Ça, je peux vous le dire, je peux m'engager à vous le dire, elle ne sera pas divisée. Par contre, sur le mont du temple, il y aura peut-être un troisième temple, un temple du syncrétisme où il y aura toutes les religions ensemble et où l'antéchrist s'assiera. Mais ça, je vous ai dit, ce temple-là, c'est pas pour nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de justement, ces nations qui se lient ensemble. Cette paix qui est une paix qui ne vient pas de Dieu. Alors, oui. Oui. Ils ont entendu ça, c'est les médias, c'est la manipulation des médias. Un Israélien qui habite, il est appelé colon. Et voilà, colon, c'est une connotation négative. Donc les mots sont utilisés, dans les médias, il n'y a pas de mots neutres, c'est utilisé pour justement les bons et les méchants, c'est le feuilleton à suivre. Israël, c'est toujours le feuilleton à suivre dans les actualités. On a pris part pour le héros, vous vous souvenez, avant 1967, c'était Israël le héros. Vous saviez que la France était le plus grand allié d'Israël jusqu'en 1967 ? Grâce à la France, nous avons la puissance nucléaire, en échange justement de la guerre du Sinaï, où les Israéliens ont aidé les Français et les Anglais à reconquérir le canal de Suez en 1956. Alors les Français ont dit, qu'est-ce que je peux vous donner en échange? Et Shimon Peres a dit, donnez-nous la possibilité de nous défendre avec l'arme nucléaire. Et les Français sont venus construire la centrale nucléaire en Israël. Les plus grands alliés de la France jusqu'en 67 étaient Français. D'Israël. Oui, d'Israël. Les plus grands d'Israël étaient Français. Et ensuite, guerre 67, le besoin de pétrole. L'économie, toujours, c'est toujours l'économie. Quand vous regardez aux guerres, vous voyez derrière, il y a toujours l'économie. Et les alliances. Et la guerre des six jours, où les Israéliens avaient déjà commandé les armements, et tout d'un coup pris au dépourvu. On a besoin d'armes, donc on demande à la France de ramener les armes, et le gouvernement français décide de faire l'embargo. Non, on ne vous donnera pas les armes que vous avez achetées. Alors quand on dit non à des Israéliens, ils partent en commando, ils rentrent en France, ils sont dans le port de Cherbourg, ils ont déjà acheté 5 bateaux, ils arrivent à s'enfuir avec ces bateaux. Ça, vous l'avez entendu déjà parler de ces histoires ? Le général de Gaulle, en colère, regardez, celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. C'est l'icône de la résistance. C'est une personne très respectée, président de la République, très aimé, très connu. C'est la guerre des six jours, c'est juin 67, mai 68. Moi, non. Je bénirai celui qui te bénit. Des coïncidences, oui, peut-être, mais plus on prie, plus les coïncidences arrivent. Les nations qui ont maudit Israël ont été maudites. Regardez, tout dans le Moyen-Orient, Saddam Hussein, qui donnait de l'argent aux familles des victimes du terrorisme, chaque famille où un fils se faisait tuer, suicider, recevait de l'argent. Donc, ces jeunes étaient encouragés. Bon, j'ai pas de futur, je vais me tuer, comme ça ma famille pourra vivre aisément. Et Saddam Hussein payait. Saddam Hussein, il est tombé. Kadhafi, tombé. Le président Assad, il est en train de tomber. Il tient beaucoup parce qu'il y a des enjeux différents en Syrie. La Syrie, c'est un pays à part. On peut en parler. Mais tous ceux qui ont... Idi Amin en Ouganda, tous ceux qui ont parlé contre Israël n'existent plus. Et Israël existe toujours. Bin Laden, voilà. Je bénirai celui qui te bénit, je maudirai celui qui te maudit. C'est ce qu'on appelle un verset de fondation. Pourquoi ? Parce qu'il est trois fois répété. Quand un verset est répété trois fois, ça veut dire que c'est quelque chose de très très important. C'est plus la stéréo là, c'est une oreille, deux oreilles. Vous savez, c'est Habacuc. Le juste vivra par la foi. Trois fois. Galates, Hébreux, Romains, ce verset est répété, c'est un verset de clé. On est sauvé par notre foi dans le Seigneur. Ici, je bénirai celui qui bénit Israël, je maudirai celui qui maudit Israël. Il faut faire très attention, jamais maudire un juif. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le prix, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il pense, ne maudisez jamais ce que Dieu a béni. Parce que la troisième fois, c'est dans le nombre 24. C'est ce prophète professionnel qui avait été payé pour maudire Israël. Et il essaye, hein, il fait son possible. Hein, on lui donne de l'argent, il essaye, il veut. Et puis tout d'un coup, il dit, est-ce que je peux maudire ce que Dieu a béni ? C'est pas possible. Et par le Saint-Esprit, il commence à prophétiser. Il y a une prophétie fantastique que Balaam dit, hein, sur Israël, hein, sur les tentes de Jacob. C'est quelque chose de très très fort. Et ensuite, il dit, je bénirai celui qui te bénit, je maudirai celui qui te maudit. Quand on critique Israël sans le savoir, eh bien, on se place sous la malédiction. Et moi, je dis, c'est quoi la malédiction ? La malédiction, c'est quand il y a un orage, une grosse tempête, il pleut beaucoup, et tout d'un coup, on se retrouve sans parapluie. C'est ça, la malédiction. La bénédiction, c'est la protection de Dieu, c'est la couverture. C'est pour ça qu'il nous a donné des gens spirituels qui nous couvrent. On est couvert par la bénédiction. Et la malédiction, c'est quoi ? Ben, c'est que le parapluie est retiré. Et on se retrouve confronté aux éléments de ce monde, la guerre spirituelle, les attaques. Quand on arrête de bénir Israël, le Seigneur retire sa protection. Et on se retrouve eh bien, selon les influences de ce monde. C'est très important, c'est un enjeu très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup d'églises n'ont pas cette révélation. Ils n'ont pas cette révélation de bénir Israël. Et pour revenir à ce que je vous ai dit avant, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toutes mes joies, quel que soit votre ministère, quel que soit votre appel, quelle que soit votre ville ou votre pays, donnez toujours à part ce temps pour Israël, pour le salut du peuple juif. Je vais vous laisser par une... On fait encore de l'histoire. Moi, mon héros, un de mes héros, s'appelle Hudson Taylor. Et c'était un Anglais, un jeune Anglais. Le Seigneur l'a appelé à être en Chine. Donc il s'est préparé, il a fait des études médicales, il est venu en Chine. Et quand il est venu en Chine, il est devenu le pionnier de la Chine. Il y a eu des... Et c'était le premier qui s'habillait comme un Chinois. Il parlait chinois, il est rentré à l'intérieur des terres, c'était vraiment un pionnier. Et bon, son histoire est fantastique. Et tous les premiers de l'an, il écrivait, il envoyait un chèque d'argent avec une lettre à Salomon Alexander, qui habitait à Jérusalem, qui était le premier bishop, le premier évêque protestant au Moyen-Orient. Il était juif messianique. Et il lui écrivait une lettre. Alors, Hudson Taylor de Chine, ça prenait à peu près 4 mois pour arriver. Hein. Et il écrivait dans sa lettre, pour le juif, premièrement. Et il envoyait cet argent pour la mission à Jérusalem, pour apporter la bonne nouvelle aux juifs. Et ensuite, quand Salomon Alexander recevait de Jérusalem cette lettre, lui aussi faisait une lettre et il envoyait à Hudson Taylor sa dîme en écrivant « Et aussi pour le grec, aussi pour les nations ». Et pour moi, ça me parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que quel que soit notre ministère, il faut toujours avoir un cœur vers Jérusalem, parce que de Jérusalem va revenir aussi la bénédiction. Et simplement pour vous donner une dernière image, quand j'étais appelé avec une équipe d'Israéliens, on est venu au Burkina Faso, on a fait une campagne d'évangélisation là-bas, et je m'arrête dans une ville qui s'appelle Yako, ceux qui connaissent le Burkina, c'est à 1 heure de Ouaga, et dans cette ville, il y avait encore des gens qui avaient le souvenir d'une jeune personne juive qui avait reçu l'évangile. C'était un soldat français, juif. Il a reçu l'évangile là-bas. Et le Seigneur l'a appelé plus tard à Jérusalem. Il a fondé la première communauté juive à Jérusalem. Sa fille est encore chez nous dans notre assemblée. Et quand on est venu dans cette ville où la bénédiction est venu sur Israël, où cette personne qui a reçu l'évangile est allée s'installer en Israël, commencer cette première communauté juive, le Seigneur a mis sur notre... Il faut qu'on arrose la ville. Il faut qu'on bénisse ce que Dieu a béni. Et on a cherché, est-ce qu'il y a un ministère, est-ce qu'il y a quelque chose, et puis on nous a montré cette école, 70 enfants, et le Seigneur nous a mis sur le cœur. Ils ont apporté la bénédiction à Israël, maintenant c'est le temps d'arroser de retour ceux qui ont béni. Je crois que c'est ça, la pluie, elle vient de où? Elle vient l'évaporation de la mer, les nuages, et puis ça retombe, et ça fait un cercle. Je bénirai celui qui te bénit. Et si on a été béni par Israël, c'est le moment de bénir Israël de retour. Et si les nations nous ont bénis, c'est le moment de bénir les nations de retour. Et je crois que c'est par cette image que je vais terminer. Bon, on a encore là toutes 3 jours encore d'enseignement là, mais on va arrêter puisque les temps sont courts. Mais j'aimerais bien vous voir en Israël. Si vous venez en Israël, nous sommes incontournables. C'est-à-dire, vous allez voir l'archéologie, d'accord, c'est bien, mais venez voir les pierres vivantes. Venez voir ce que Dieu fait en Israël aujourd'hui. Et je vous promets, vous n'allez pas être déçus. Je vous introduirai à Shlomi et Teissir et les autres dont je vous ai parlé, et puis d'autres aussi qui vous raconteront leur témoignage. Voilà, alors je vous remercie, vous êtes bénis, et continuez à bénir Israël, et continuez à penser à nous. On a énormément de défis là, quand je reviens lundi, on a des défis qui nous attendent. Voilà.
Merci mon frère. Je vais demander plusieurs qui s'avancent. Étienne, René, si tu veux bien t'avancer, pour qu'on bénisse notre frère. Ouais, on va bénir. On se joint tous pour bénir un frère. Et puis après, on bénit aussi le pays. Alléluia.
Seigneur, merci pour Tony. Seigneur, merci pour qui il est. Seigneur, merci pour tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il a partagé, Seigneur, de son cœur, de son expérience, de son vécu, Seigneur, pendant ce temps, Seigneur. Et je te demande, alors tu vois, il a partagé avec nous qu'il avait des gros défis, Seigneur, alors qu'il rentre. Seigneur, merci parce que tu es l'Éternel qui est avec lui, Seigneur, qui le précède, qui marche devant lui, Seigneur. Et on prie que tu lui donnes la force, la sagesse, Seigneur, lui et son équipe là-bas, Seigneur, pour relever, Seigneur, ses défis, Seigneur. Et nous croyons et nous prions avec lui, Seigneur, pour que, Seigneur, tu aplanisses le chemin, Seigneur, au nom de Jésus. On veut le bénir vraiment en ton nom maintenant. Amen.
Et Seigneur, j'ai à cœur te prier simplement que ta parole dans sa bouche soit encore et toujours à nouveau comme une épée qui tranche, comme une épée qui fait la part des choses, comme une épée qui éclaire, qui met en lumière, qui découvre l'obscurité et qui te révèle. Seigneur, que cette puissance de la parole soit encore renouvelée dans sa vie. Merci pour son cœur pour toi, son cœur pour Israël, son cœur pour les nations, et que cette parole porte encore beaucoup de beaux fruits. Amen.
Seigneur, je te remercie pour la parole de notre frère. Et ça a eu son effet, même ici parmi nous, Seigneur. Et je voudrais publiquement me repentir de mon attitude envers le peuple d'Israël, que je n'ai pas eu ton amour pour eux. Et je te remercie, Seigneur, que mon frère m'a libéré de cela et qu'il puisse libérer encore beaucoup plus de tes enfants de leurs préjugés et leurs préjudices. Merci, Seigneur. Amen.
Nous bénissons notre frère pour qu'il soit gardé dans son voyage de retour. Seigneur, tu gardes sa vie physique, tu gardes la vie de sa famille et de ceux qu'il aime, afin qu'il puisse être encore un instrument longtemps dans ton service. Tu gardes aussi son esprit et son âme, afin qu'il reste dans les sentiers de ta vérité, Seigneur Jésus. Seigneur, protège-le au milieu de toutes ces influences contraires qui agitent le monde qui nous entoure. Qu'il reste lui-même un héros de ta parole. Amen.
Tony, tu as lancé cet appel, c'est l'Esprit Saint en toi qui se meut, qui a fait dans tes entrailles, tu as lancé cet appel. Alors je vais y répondre très officiellement. Donc avec mes 50 responsables, je vais te dire l'année prochaine à Jérusalem, donc tu vas avoir du travail, tu vas nous accueillir, d'accord? Tu as été très sérieux.
De quoi?
L'invitation. Donc voilà, tu prépares, on arrive, tu prépares la table, tout ça, ce qu'on va manger chez toi.
Le
on aime tout. Tu es d'accord? Alors, à l'année prochaine, à Jérusalem.